Deutéronome, au chapitre 30, une lecture d'introduction. Je voudrais encourager ce matin. Dans le livre du Deutéronome, au chapitre 30, verset 11, donc nous sommes sur la fin du Deutéronome et la fin des 40 années de désert en même temps. Deutéronome chapitre 30, verset 11, « Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que te dise « Qui montera pour nous au ciel et ira nous le chercher ? Qui nous le fera entendre, afin que nous le mettions en pratique ? Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que te dise « Qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et ira nous le chercher ? Qui nous le fera entendre ?» afin que nous le mettions en pratique. C'est une chose, au contraire, qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Amen. Nous sommes donc à la fin des 40 ans de désert. Moïse s'adresse à cette génération qui n'a pas connu la délivrance de l'Égypte, cette génération qui n'a pas entendu ce Dieu parler du haut de la montagne, cette génération qui s'apprête à rentrer dans le territoire de Canaan et qui a besoin de réentendre les commandements. Moïse leur a rappelé les commandements, il leur a rappelé la nécessité de les observer et les conséquences s'ils ne les observaient pas. Alors je me mets à leur place. Et des fois, quand je les visualise, je me mets un petit peu lorsque j'étais à l'école. Et à la fin du cours, le prof disait « Prenez vos cahiers de texte et commencez à énumérer les devoirs. Faites tel exercice. » Puis des fois, ils en mettaient beaucoup. On faisait comment ? Je pense qu'ils étaient un petit peu de cette manière-là, vous voyez, dans cet état d'esprit-là, quand ils ont entendu tous ces commandements. Et Moïse, pour anticiper cela, leur dit « Mais ne dis pas en ton cœur, c'est trop haut, c'est trop difficile, il faut aller au-delà de la mer. » Vous voyez, la pensée, elle est là. Il veut les empêcher de penser que ce qu'il leur est demandé est au-delà de leur force et finalement, ou au final, qu'ils ne se sentent pas concernés. Et il leur dit, ne dis pas en ton cœur. Ne dis pas en ton cœur, c'est trop dur. C'est trop difficile. C'est pour les autres, c'est pour ceux qui sont meilleurs que moi. Il y en a qui sont plus doués que moi. On a tendance. Vous savez, ne dis pas en ton cœur, des choses à l'intérieur, on s'en dit, hein. Il n'y a pas toujours des bonnes. Et on peut se tromper avec ce que l'on se dit à l'intérieur. Retenez aussi d'ailleurs, ne dis pas en ton cœur. Alors qu'il s'adresse à tout le peuple, il ne dit pas, ne dites pas dans votre cœur, mais ne dis pas en ton cœur. Comme si, en parlant à tout le peuple, il interpelle chacun individuellement. Aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, les paroles de Jésus, les commandements de Jésus, les commandements de l'apôtre Paul, la mission que Jésus a donnée à l'Église, elle pourrait aussi provoquer le « pfff » et ce sentiment que c'est quand même difficile ce que tu demandes. Quand on pense au sermon sur la montagne où Jésus monte le niveau, on aura envie de faire « pfff ». Et je crois que c'est bien d'entendre aussi cette parole « ne dis pas en ton cœur ». Et je voudrais faire passer ce message ce matin. C'est que la vie chrétienne, comme Dieu l'envisage, c'est pour tous. Et il ne faut pas dire c'est trop difficile ou c'est pour d'autres, pas pour moi. Notamment par rapport à certains points. Et je dirais c'est encore même plus vrai dans la Nouvelle Alliance. Dans l'Ancienne Alliance, il y avait des séparations. Par exemple, dans le Temple, seulement les Lévites pouvaient rentrer dans le tabernacle. Et pour entrer dans le lieu saint, seulement les sacrificateurs. Et dans le lieu très saint, seulement le souverain sacrificateur. Il y avait des séparations. Il y avait des distinctions de classe. Il y avait au niveau de l'âge, juif et non juif, homme ou femme, malade ou pas malade. Celui qui était malade ne pouvait pas rentrer dans le tabernacle. Il y avait des classifications. Le ministère de l'esprit était vécu ponctuellement par certaines personnes. Beaucoup de ces distinctions, de ces séparations ont été levés avec la venue de Jésus-Christ. Nous connaissons ce beau texte, Galates chapitre 3, verset 26, « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. » J'ai dit beaucoup de différences, pas toutes. L'égalité en Christ ne gagne pas toutes les différences. Il y a des fonctions, des appels, des vocations qui sont réservés à quelques-uns et pas à tous. On n'est pas tous appelés à être prédicateurs ou missionnaires ou apôtres. L'égalité homme-femme ne signifie pas une différence de fonction. Il y a des dons spirituels que Dieu accordera à certains, qui souvent ça correspondra à certains ministères. D'accord ? Mais néanmoins, dans la grâce, il y a des choses qui sont venues accessibles à tous. Maintenant que j'ai dit tout ça, je voudrais braquer le projecteur sur certaines vérités. Et je voudrais dire à chacun d'entre nous, ne dis pas en ton cœur. Ne dis pas en ton cœur, le salut, c'est pour les autres et c'est pas pour moi. J'ai le souvenir, lorsque j'étais en train de me convertir, vous savez, il y a une période où on s'approche de Dieu, il y a sa bataille au niveau du cœur. Et il y a une période où je me rappelle où je donnais mon cœur au Seigneur un petit peu à chaque réunion, mais je n'avais pas le sentiment que Dieu répondait. Et puis des fois, à côté de moi, j'en voyais qui pleurait. Je dis, moi, je ne pleurais pas. Et je me disais, peut-être que le salut, il est pour ceux qui sont un peu émotifs ou ceux qui sont plus sensibles, et moi, je ne suis pas dans cette case-là. Vous voyez, il y a une petite pensée qui nous traversait, alors je la balayais vite, parce que le message était clair. Mais quand même, il pouvait y avoir cette pensée qui s'installe, qui dit, où on va se dire, le salut, c'est pas pour toi, c'est pour certains. Ou pour ceux qui ont un gros casier de pêcheurs. Ça, c'est le complexe de ceux qui ont grandi dans l'Église. Ils pensent que le salut, c'est que pour ceux qui ont vraiment fait des choses horribles. Non, le salut, c'est pour tous les pêcheurs, même les petits pêcheurs, entre guillemets, hein, dans tout ce domaine-là. Mais on pourrait penser comme ça. Pour peu qu'on nous a embrouillé l'esprit avec un langage sur la prédestination qui nous dit que Dieu a décidé à l'avance ceux qui seront sauvés, oulala, on peut se mettre... Alors je voudrais dire, ne dis pas en ton cœur. L'apôtre Paul a repris cette déclaration du Deutéronome que nous avons lue, justement à propos du salut par la foi. Dans Romains chapitre 10, verset 6, il est écrit « Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur, qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ. Il l'a appliqué, il l'a transposé. Ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Mais que dit-elle donc ? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche que l'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. » Vous voyez, Paul a repris ces paroles du Deutéronome, mais les a appliquées. Mais au lieu de mettre en avant l'observation des commandements, lui, il veut dire, ne dis pas en ton cœur que la justification par la foi, le salut par la grâce, c'est pour les autres. Non, c'est pour toi. Je crois que c'est important. Hein, ça peut être un mensonge diabolique, des fois, qui peut dire, non, ce n'est pas pour toi le salut. Dieu veut sauver tous les pécheurs. Tu es un pécheur si tu n'es pas sauvé. Et même si tu es sauvé, tu es un pécheur gracié. Nous sommes tous des pécheurs, mais Dieu veut sauver tout le monde. La Bible nous dit que Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Et c'est une affirmation forte qu'il nous faut retenir. Quelqu'un pourrait dire, oui, mais moi j'ai lu dans la Bible, à un moment donné, quand on a posé la question à Jésus, y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ? Jésus a répondu, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis que beaucoup chercheront à entrer et ils ne le pourront pas. Littéralement combattre. Ça laisse penser que c'est quand même difficile pour être sauvé. L'effort que Jésus nous demande, il n'est pas pour se sauver, il est pour reconnaître qu'on a besoin de salut, pour reconnaître qu'on est un pécheur et qu'on ne peut pas se sauver soi-même. Ça, c'est difficile. Mais le salut, c'est facile et c'est accessible, disponible pour tous. Personne n'est écarté du plan de la grâce, mais on peut s'écarter soi-même. Je voudrais dire à quelques-uns peut-être ce matin, que ce premier point, vous devez l'entendre. Pour quelqu'un ce matin, elle est là, la parole de Dieu. Tu as besoin de te tourner vers Jésus et de dire, Seigneur, je suis pas écarté de ton plan de salut. Et je reconnais que je suis un pécheur. Je crois que Jésus-Christ a donné sa vie sur la croix. Je te donne ma vie, Seigneur. Deviens mon sauveur. Ne dis pas en ton cœur, la justice de Dieu, une manière de vivre droite, l'intégrité morale, c'est pas pour moi, c'est trop difficile. Il y en a qui sont plus doués que moi. Non. Une conduite sans péché, une vie transparente, où il n'y a aucun défaut, un caractère irréprochable, ça peut paraître inaccessible. On pense à ce texte, rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. On pourrait des fois avoir le sentiment que Dieu, en matière de, dans ce domaine d'une vie sainte, d'une vie juste, nous place une barre qui nous semble inaccessible, comme au-delà de la mer. Un petit peu, ça rejoint cette prière, conduis-moi vers ce rocher que je ne puis atteindre. Et c'est vrai qu'encore plus aujourd'hui, où c'est encore plus facile de pécher, avec Internet aujourd'hui, c'est facile, l'accès au péché. Et on serait tenté de dire, mais je ne suis pas doué pour ça. Mais vous savez, des gens doués pour la sainteté, j'en connais pas. Il n'y en a pas. Mais si Dieu nous le demande, et même dans ces temps troublés qui sont les nôtres, c'est parce que c'est accessible, c'est possible. Il y a quelque chose qui m'aide souvent, c'est de bien réaliser que Jésus ne dit pas rechercher la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur, mais rechercher la sanctification. Il y a une différence. La sainteté, c'est la finalité. La sanctification, c'est le chemin. On sera finalement, ici-bas, on aura le sentiment de jamais arriver. Mais on doit être sur ce chemin, ce désir, cette détermination à vouloir être juste. Alors, il ne faut pas se tromper sur la méthode. La sanctification, ce n'est pas la force du poignet. Ça ne doit pas être de l'ascétisme. Ça ne doit pas être de la mortification et des privations. Mais rappelons-nous qu'il y a une disposition de notre part à faire, c'est vrai. Mais rappelons-nous que c'est lui aussi qui sanctifie. C'est lui qui le fait. Avec son aide, nous, on essaie de se placer entre ses mains pour qu'il puisse nous changer. Mais ne dis pas en ton cœur, je n'y arriverai pas. Ne dis pas, c'est pour certains. Ceux qui ont un service, c'est pour les pasteurs. Non, c'est pour tous. Nous sommes tous concernés et c'est le défi. Vendredi après-midi, je parlais sur Matthieu, chapitre 5, verset 8. « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Jésus prend une image que l'on comprend tous très facilement, parce qu'on sait tous ce que c'est d'avoir faim. Peut-être même qu'en ce moment, certains ont faim déjà. Vous voyez, c'est quelque chose que l'on comprend très vite. Et Jésus veut nous dire quoi? Il veut nous dire au moins trois choses. Jésus veut nous dire que la justice de Dieu, une vie morale, c'est une nécessité. Je ne peux pas en faire l'économie. Jésus me dit aussi par ce passage que elle doit être désirée. Et il faut le désirer. Je pense à une personne qui me disait souvent « je n'y arrivais pas ». Et à un moment donné, j'ai compris que quand elle disait « je n'y arrivais pas », ça veut dire « je n'ai pas envie ». Des fois, derrière certains mots ou certains langages, il peut y avoir autre chose. Et puis, ce que je voudrais dire, et c'est surtout là, c'est que Jésus prend une image. Il n'a pas pris « si quelqu'un désire faire le tour du monde hein. ». Jésus dit « si quelqu'un a faim, quelqu'un... » Et on connaît tous la faim. Mais on a tous été rassasiés au moins une fois. Et même plus que ça. Vous voyez, je veux dire, Jésus prend un désir qui peut être facilement satisfait. Et c'est bon de se le rappeler. Dans un contexte qui est le nôtre, une vie juste, la droiture de cœur, c'est pas que pour les autres, c'est pour moi. Alors bien sûr, il doit y avoir de la détermination. Il y a des fois des ratés, c'est vrai. Dans ce domaine, pour prendre une image, mais dans ce domaine, j'ai un petit peu le sentiment, vous savez, là, je reste sur des images de l'école, là. Mais chaque fois qu'on démarre un cahier à l'école, la première page, nickel. On écrit, les traits tirent à la règle, pas une rature. Trois pages après, il y a des ratures qui commencent à s'entasser. On ne tire plus les traits à la règle. Et si on va à la fin du cahier, c'est terrible. Bon, on ne veut pas que ça ressemble à ça. Mais on sait quand même qu'il y aura des ratures. Il y aura des ratés. On le sait. Il y aura des fois des pages qu'il faut même carrément enlever. C'est vrai. Mais on ne perd pas de vue que c'est accessible et réalisable. Et c'est important d'être dans cette détermination. C'est vrai que des fois, on peut être découragé vis-à-vis de soi-même dans ce domaine. parce que changer son caractère, ça ne se fait pas un clic, hein, ça ne se fait pas avec une délivrance. Ça se fait avec une détermination, une volonté, une disposition de cœur. Ne dis pas en ton cœur, le baptême dans le Saint-Esprit et les dons de l'Esprit, ce n'est pas pour moi, je ne suis pas doué pour ça. Personne n'est doué pour le baptême dans le Saint-Esprit, parce que ça vient d'en haut. Vous savez, on peut se priver du baptême dans le Saint-Esprit avec toutes sortes de raisonnements. C'est trop difficile. C'est pour ceux qui sont appelés. C'est pas pour tous, c'est pour les exaltés ou les illuminés. C'est pour les premiers chrétiens, c'est pour les missionnaires. C'est pour les vieux, c'est pour les jeunes. Enfin, on peut entendre toutes sortes de raisonnements. Je ne suis pas assez sanctifié. Je ne suis pas encore prêt. On a vite fait de penser comme ça. Je rappelle que le baptême dans le Saint-Esprit, c'est un don. Ce n'est pas un talent naturel. Et c'est un don surnaturel. Alors, il y a des textes qui pourraient nous tromper. Je pense à ce passage de l'Ancien Testament. Lorsque Élisée, il colle Élie parce qu'il sait qu'il va partir. Il ne sait pas qu'il va être pris, mais il sait qu'il va partir. Et Élisée, c'est un audacieux. Hein. Et il va lui dire... Élie va lui dire, qu'est-ce que tu veux ? Et dire, je veux une double portion de ton esprit. Et vous vous rappelez la réponse d'Élie ? Ouh, mais ce que tu demandes là, c'est une chose difficile. Hein. Alors ça pourrait laisser penser que la plénitude de l'esprit, c'est encore plus difficile. Mais comprenons que c'était une chose difficile à une période où l'esprit de Dieu n'était pas répandu, où Élisée demande quelque chose qui est hors cadre. Mais pour nous, on est dans les clous. La promesse, elle est pour nous. Elle est pour chacun d'entre nous. Elle est pour vous. Hein, c'est clairement annoncé, et c'est bon de se le rappeler. La promesse, c'est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu en appellera. Rappelons-nous la prophétie de Joël, le prophète, qui a annoncé hein, qu'il y aurait des temps avec le Saint-Esprit. Vos vieillards auront des songes. Vos jeunes gens auront des visions. Ils montrent que les plus faibles et... Je dirais, ceux qu'on aurait tendance à mettre à l'écart, ils ont accès à cette grâce. Personne n'est éliminé. Personne n'est écarté. Nous vivons dans une société où, au-delà d'un certain âge, on est mis de côté, mais pas dans le domaine de la vie de l'esprit. Il est vrai qu'en vieillissant, des fois, il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Mais dans le domaine de l'esprit, jusqu'au bout, on peut être rempli. Jusqu'au bout, on peut exercer les dons de l'esprit. Et c'est bon de se le rappeler. Si tu es né de nouveau, le Saint-Esprit est en toi. Mais le baptême dans le Saint-Esprit, c'est un peu comme le passage du fil électrique au numérique, vous voyez ? On augmente le débit, on passe en fibre optique, en illimité. Hein, c'est un petit peu, vous voyez, on décuple les capacités. Et je crois que c'est bon. Et je dis aussi que les dons spirituels sont disponibles, accessibles. Même si le Saint-Esprit distribue les dons comme il veut. Et il est évident qu'il y a certains dons qui collent avec certains ministères. Mais la Bible nous montre que la prophétie et surtout les dons d'expression sont quand même mis à la disposition de celui qui aspire. Aspirez aux dons spirituels, surtout à celui de prophétie. Ne dis pas en ton cœur, l'adoration, c'est pas pour moi, c'est pour quelques personnes douées. Il y a un mensonge subliminal qui a été fait passer dans les églises ces dernières années. C'est celui que l'adoration est réservée à quelques spécialistes. Des gens qui savent jouer de la musique, des gens qui sont super sensibles. Même des fois, certaines personnes qui ont reçu un ministère dans ce domaine. Alors, j'ai du mal avec le mot ministère, même si je l'utilise. Mais dans la Bible, il n'y est pas. Hein, c'est le mot service. Dans le ministère de l'adoration, j'ai encore plus de mal. Pourquoi ? Parce que ma pensée, elle, là, c'est que l'adoration, c'est pour tous. Rappelez-vous, lorsque Jésus a rencontré la Samaritaine. Elle n'avait rien d'une adoratrice. Elle était plutôt une combattante. Hein, et quand Jésus commença la discussion avec elle, elle sort les barbelés. Et Jésus, pourtant, il va lui parler d'adoration. C'est à elle qu'il dira, « Crois-moi, l'heure vient. Où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous, nous adorons ce que nous connaissons. » Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que celui qui l'adore en esprit et en vérité. J'ai le souvenir d'une personne un jour qui m'a dit, moi, c'est l'adoration. J'ai dit, waouh, surtout qu'elle était jeune convertie. Après, j'ai compris. J'ai compris, quelqu'un disait l'adoration, elle recherchait quelque part un plein d'émotions. Mais ce n'est pas ça, l'adoration. L'adoration, ce n'est pas pour mon compte. Je m'occupe de Dieu. Je me détache de mes besoins. Et c'est là la difficulté, justement. C'est qu'on a tendance à revenir constamment sur la prière, sur nos besoins. Mais l'adoration, je m'occupe que de Dieu. Mais chacun est invité à prendre sa place. Adorer, ce n'est pas un ministère réservé à quelques-uns. Bien sûr, en grâce à Dieu pour ceux qui peuvent entraîner dans ce domaine. Vous avez des fois la louange de certains, elle entraîne ceux des autres. La Bible en parle d'un homme. Mais je crois que c'est bon de se le rappeler, que ce n'est pas réservé à quelques spécialistes. Je le dis aussi, ne confondons pas adoration et émotion, même si l'un amène vers l'autre. Je vais le dire comme ça. L'émotion ne doit jamais être, la recherche d'émotion ne doit jamais être un but. Par contre, l'adoration produit des fois de l'émotion. Ouais. C'est plus une conséquence. D'accord ? Je reviens sur la Samaritaine. Ce que Jésus lui dit, c'est quoi ? Il lui dit que la venue de Jésus a marqué un changement au niveau de l'adoration. Évidemment, la grâce, quand Jésus vient, c'est on ne peut pas se caler, on ne peut pas prendre modèle l'adoration qui se fait dans l'Ancien Testament. On peut vivre quelque chose de beaucoup plus intense, beaucoup plus plein, par son esprit. L'adoration est avant tout une attitude de cœur. Elle ne se limite pas à un événement ou à un lieu. Et puis, rappelons-nous, ce que je voudrais souligner, c'est que Jésus dit à cette Samaritaine qui avait une drôle de vie, c'est que Jésus voyait déjà ce qu'elle pouvait devenir, une adoratrice. Quelqu'un qui soit tourné vers le Seigneur. C'est, Jésus l'affirme clairement, l'adoration, c'est un service de tous les chrétiens. D'ailleurs, dans les différentes définitions du mot « service », vous avez le mot « diakoneo » qui est celui qui revient le plus souvent, mais vous avez un mot qui est traduit par « service », c'est le mot « liturgéo » qui a donné « liturgie », mais qui a cette idée de rendre un culte à Dieu. C'est important de prendre sa place. Il y a quelques années, à Nîmes, on a fait un putsch avec les jeunes. Je m'explique. Aux jeunes, je leur avais dit, demain, on fait un putsch au culte. Dès le début, au moment, on prend d'assaut le culte et c'est nous qui louons en premier. Alors, chacun s'était inscrit et ils étaient une dizaine ou une quinzaine à s'être marqués. Ouais, je loue. Et dès que le moment de louange a démarré, ceux qui avaient l'habitude de démarrer, ils se sont fait, qu'est-ce qui arrive ? Les autres, c'était des jeunes qui louaient, des voix, ils regardaient qui c'est qui louait, des petites voix qu'ils n'avaient pas l'habitude d'entendre. Notre putsch avait réussi. Et mon idée, ce n'était pas de faire un putsch. Hein. Mon idée, c'était d'entraîner les jeunes à prendre leur place dans l'adoration et dans la louange. Et ça avait marché. Après, on ne pouvait pas faire un putsch le dimanche. Hein. Mais ça avait marché. Et comprenons que l'adoration, ce n'est pas réservé à quelques-uns. Ce n'est pas un don. On est tous appelés à être des adorateurs en esprit et en vérité. Et puis, ne dis pas en ton cœur que l'évangélisation... C'est pas pour moi, je suis pas doué pour ça. Des gens doués pour l'évangélisation, j'en connais pas beaucoup. Même l'apôtre Paul, il dit à un certain moment, il dit j'étais dans un état de faiblesse, il y a un problème de langage. Même l'apôtre Paul, il sentait ses limites dans ce domaine. Pourtant, nous sommes tous appelés à être des évangélistes. Alors, le mot évangéliste, déjà, c'est pas le mot évangélique. Que les journalistes se trompent, on l'admet, on l'accepte. Mais que des chrétiens se trompent, non. L'évangélique, c'est celui qui a une foi nature dans l'évangile et qui fréquente une église évangélique. L'évangéliste, c'est celui qui travaille à la propagation de l'évangile. Mais le mot peut avoir deux niveaux, la notion d'évangéliste. Un évangéliste, c'est chacun d'entre nous. Nous sommes tous appelés à être des témoins de Jésus-Christ, à propager l'évangile. Et puis ce mot peut avoir un sens plus restreint, selon Éphésiens chapitre 4, verset 11, quand il est question des hommes qui ont été donnés à l'Église, et il a donné des évangélistes. Et un évangéliste, dans ce sens-là, c'est quelqu'un qui a un ministère de la parole, j'utilise ce mot quand je ne peux pas faire autrement, c'est quelqu'un qui a un ministère de la parole, et quoi, le truc pour trouver le chemin des cœurs et amener les âmes au salut. C'est ça, d'accord ? Mais on est tous dans le sens large, on est tous appelés à être des évangélistes. Et il ne faut pas dire... Oh, moi, je ne suis pas doué pour ça. Ce n'est pas mon rayon. Je vous le dis bien, des gens qui soient doués naturellement pour ça, on n'en connaît pas. Parce que de dire que Jésus a donné sa vie sur la croix, ça provoque des réactions. Et puis c'est difficilement explicable. Vous aurez toujours en face de vous des gens qui en connaissent plus que vous, qui sont plus intelligents que vous. Je pense à cet homme, il y a quelque temps, j'ai parlé sur cet homme qui avait été guéri, cet aveugle-né qui a été guéri par Jésus. Et il se retrouve, c'est dans Jean 9, et il se retrouve au milieu d'une polémique. Il est bombardé de questions. « Mais qui c'est qui t'a guéri? Et pourquoi t'es guéri? Et pourquoi c'est un jour de sabbat ?» Et il se retrouve, il dit « Qu'est-ce qui se passe ?» En plus, ils y vont. Hein. « Nous savons que celui-là, c'est un pécheur. Nous savons que. » Et à un moment donné, il dit quoi? Il dit « Moi, j'en sais peut-être pas autant que vous, mais je sais une chose. C'est qu'avant, j'étais aveugle, et maintenant, je vois. » Et là, je trouve qu'on a le modèle de l'évangélisation. On n'aura pas toujours la réponse à tout. Mais nous savons ce que Jésus a fait dans notre cœur. Nous savons qu'il est venu, qu'il a pardonné nos péchés. Nous savons qu'il a mis dans notre cœur une espérance vivante. Nous savons qu'il a mis la joie du salut. Nous savons qu'il est là et qu'il tient nos vies dans ses mains. Et ça, c'est irremplaçable. Et je le dis, mais chaque fois que je me retrouve dans une discussion où je sens que sur le terrain de l'apologétique, sur le terrain un petit peu de l'explication, je sens que ça coince, alors j'aime affirmer. J'aime proclamer ce que Jésus a fait. Je reprends la main comme ça. Mais c'est important, frères et sœurs. Ne dites pas en votre cœur, je ne suis pas doué pour l'évangélisation. Vas-y, parle de Jésus. Et le don viendra entre-temps. Et puis rappelons-nous qu'on n'a pas une obligation de résultat, mais une obligation de moyens à ce niveau-là. Nous sommes appelés à être des témoins de Jésus-Christ. Et le Seigneur veut nous aider. Alors je termine simplement en disant, attention à tous ces raisonnements qui pourraient au final nous priver de certaines grâces ou qui pourraient nous priver d'entrer dans certaines choses que Dieu a prévues pour nous. Je l'ai déjà dit et je le dis, la volonté de Dieu, elle a des constantes et elle a des spécificités. Les spécificités, c'est-à-dire que Dieu peut vouloir quelque chose pour l'un et pas pour l'autre. Mais avant de s'occuper des spécificités, rappelons-nous les constantes. Et là, je les ai énumérées, les constantes. Dieu veut que nous soyons des adorateurs. Alors ne dites pas et ne disons pas, je ne suis pas doué, Dieu veut. Et je veux faire monter. Et quel que soit mon âge, quelle que soit ma langue, quelqu'un a pris, l'a fait dans sa langue, et je trouve ça super hein, de pouvoir le faire, mais c'est bon de louer le Seigneur. Ne dis pas en ton cœur, je ne sais pas bien témoigner, dis ce que Jésus a fait. Dis qu'il a pardonné tes péchés. Plante le drapeau et puis laisse venir, tu verras. Et je crois que c'est bon. Ne dis pas en ton cœur tout cela. Ne dis pas en ton cœur qu'une vie juste et droite, c'est au-delà de mes forces. Ne raisonne pas de cette manière-là. Ne pense pas ainsi. Mais le Seigneur, il est celui qui nous aide. Et puis, ne dites pas que le baptême dans le Saint-Esprit, c'est pas pour moi. Dieu veut tous, que nous soyons tous remplis de son esprit. Que son nom soit béni. Ne nous trompons pas par certains raisonnements, mais rappelons-nous qu'il y a des grâces, des vocations, des places que Dieu veut, mais ouvre pour chacun d'entre nous. Question de foi, de détermination, et puis balayer ces raisonnements qui pourraient nous empêcher de rentrer dans ce que Dieu veut. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour tout ce champ d'action que tu as ouvert pour nous. Et finalement, s'il y a des domaines où l'on ne rentre pas, ce n'est pas à cause de nous, mais ce n'est pas à cause de toi, mais c'est à cause de nous. C'est parce que des fois, on n'a pas la foi qu'il faut, ou on est bloqué par des raisonnements enlisés dans une manière de penser. Des fois, on pense bien faire, on pense être humble, alors que ce sont des complexes qui nous enferment. Augmente notre foi. Merci d'aider chacun d'entre nous. Je prie pour celui qui aurait tendance à penser que le salut, c'est pas pour lui. Seigneur, enlève ça de son cœur, s'il te plaît. Et sauve ce matin. Emmène-nous plus loin dans l'adoration. Fais de chacun d'entre nous des adorateurs en esprit et en vérité. Merci, Seigneur, de nous aider à rentrer tous dans une vie de l'esprit abondante. Que ton nom soit béni. Amen.